le magazine des Nations Unies.
Le Conseil de sécurité de l'ONU reconduit pour une année les sanctions financières et sur les armes en République démocratique du Congo. Le point avec Jean-Pierre Elali Coco dans un instant. Jean-Pierre Bemba écope de 18 ans d'emprisonnement. C'est le verdict rendu mardi dernier par la Cour pénale internationale. Ce verdict suscite des réactions diverses dans le pays du sénateur congolais. Dans cette édition, le magazine des Nations Unies propose celle de la MONUSCO et du bureau de la CPI à Kinshasa. Enfin, les violations de droits de l'homme en hausse en RDC durant le mois de mai. C'est en ce cas qui ressort du rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Rapport rendu public en début de semaine. Nous ferons le point avec le directeur de ce bureau qui sera notre invité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Et nous ouvrons ce magazine par la résolution du Conseil de sécurité reconduisant pour une année les sanctions financières et sur les armes en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Elali Coco, vous êtes dans ce studio pour nous en parler. Bonjour.
Bonjour Tina et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. Effectivement, vous l'avez dit Tina, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de reconduire jusqu'au 1er juillet 2017 les mesures sur les armes précédemment imposées par les 15 membres permanents du Conseil de sécurité contre la République démocratique du Congo. Ces mesures concernent la vente des armes ainsi que leur transport. Ce n'est pas tout, Tina. Les conseils de sécurité reconduisent également les mesures financières et celles des déplacements imposés aux personnes et entités que le comité des sanctions aura désigné comme se livrant à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en République démocratique du Congo. Par conséquent, la même résolution proroge les mandats du groupe d'experts chargé de surveiller l'application de mesures imposées et appelle à une coopération accrue entre tous les États de la région, et la MONUSCO et le groupe d'experts. Enfin, un autre détail important, Tina, les 15 membres du Conseil de sécurité prient instamment le gouvernement congolais et toutes les parties concernées de créer des conditions nécessaires pour la tenue, d'ici à novembre prochain, des élections présidentielles et législatives libres, crédibles, transparentes et conformes à la constitution congolaise.
Merci Jean-Pierre Elali pour ces détails. Une autre actualité qui a défrayé la chronique cette semaine, c'est bien le verdict de la CPI dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, le leader du MLC, vous le savez, condamné à une peine de 18 ans d'emprisonnement. La CPI ayant déduit de la peine les 8 années que le Tchiamène a passé à la haie. L'événement a suscité bien évidemment des réactions diverses au pays. Il a été également évoqué à la conférence hebdo des Nations Unies mercredi dernier. Alors Jean-Pierre Elali Coco, vous revenez en tout cas sur les réactions de la MONUSCO, du bureau de la CPI à Kinshasa, mais également d'un professeur de l'UNIKIN.
Oui Tina, Madame Margot Tedesco, responsable de la sensibilisation des terrains à la CPI en RDC, rappelle que Jean-Pierre Bemba est condamné pour 5 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Toutefois, elle note que les deux parties ont encore la possibilité de faire appel concernant justement la peine, même si à ses yeux, c'est la première fois que la CPI prononce une peine aussi lourde.
Il ne faut pas oublier non plus que les deux parties ont encore la possibilité de faire appel concernant la peine. Concernant cette décision, c'est la première fois que la CPI prononce une peine aussi lourde. Deuxième point, il est important également de souligner que c'est pour la première fois qu'il y a une condamnation d'une personne en tant que chef militaire.
Il est tiré la leçon pour tous les chefs militaires responsables des crimes.
Cette décision rappelle que toutes les personnes et les chefs militaires sont responsables des crimes qui sont commis par leurs troupes.
Par ailleurs, José María Ranaz, directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, lui souligne trois aspects qu'il juge importants dans ses verdicts.
Souligner trois aspects importants de la décision de la CPI. La première, c'est que ça confirme la violence sexuelle comme un crime de guerre. Ça, c'est très important. La deuxième, c'est que tu as déjà souligné la question de la responsabilité des commandements de ceux qui sont responsables d'organiser les milices, des chefs de guerre. Et ça, c'est très important aussi dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Et le troisième, c'est l'importance qu'il avait dans la décision de reconnaître les statuts des victimes, ceux qui ont souffert la violence sexuelle à la République République centrafricaine.
Enfin, dans la foulée des réactions, notamment en ce qui concerne l'impact de la décision de la CPI sur l'avenir politique du sénateur congolais, Tshibangu Kalala, professeur du droit international à l'UNIKIN, estime que la bataille judiciaire n'est pas terminée et que Jean-Pierre Bemba ne peut être définitivement inéligible dans son pays.
Pour les adversaires politiques Jean-Pierre Bemba, c'est une bonne nouvelle pour eux. Jean-Pierre Bemba est hors jeu, il y a encore eu une dizaine d'années à passer en prison. Mais en ce qui me concerne, je me mets à la place de Jean-Pierre Bemba, de sa famille, de ses amis. Je considère que c'est une mauvaise nouvelle pour eux et donc je leur présente toutes mes sympathies. Mais la bataille judiciaire n'est pas encore terminée. Les avocats qui défendent Jean-Pierre Bemba vont interjeter appel. La procureure pourra aussi interjeter appel. On peut espérer que, peut-être qu'au degré d'appel, la CPI pourrait réduire la peine a été infligé à Jean-Pierre Bemba, de telle sorte qu'il puisse recouvrer sa liberté dans un avenir plus ou moins prévisible. Si un Congolais est condamné par la justice congolaise pour certaines infractions, on prévoit des conditions d'inéligibilité pour certaines périodes. Mais maintenant, Jean-Pierre Bemba est condamné par la justice internationale.
Merci Jean-Pierre Elali Kogo pour toutes ces informations.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies a rencontré le 4 juin dernier Donatien Angoy. Il est chef de bureau terrain de la FAO à l'Équateur, à Kalamba. C'est un village du territoire de Bikoro, dans la nouvelle province de l'Équateur. C'était en tout cas lors de la visite du site où sont construits des ouvrages du programme PIFOP pour ce village. Monsieur Angoy parle de ce programme et de son impact. Suivez-le dans cet entretien qu'il a accordé à Honoré Missenga Kalala.
Donatien Angoy, bonjour.
Bonjour.
Une délégation de Nations Unies est ici sur le site de Kalamba. Pouvez-nous dire l'objectif de cette mission?
Merci, parce que la visite, nous l'avons commencée depuis hier. Donc, c'était de pouvoir vérifier sur le terrain les activités qui sont réalisées par les agents des Nations Unies en Équateur. Et aujourd'hui, si nous sommes à Kalamba, c'est justement pour visiter donc, les activités qui ont été réalisées par la FAO et le PAM dans le cadre du projet Achat pour le Progrès.
Oui, est-ce que vous pouvez expliquer un peu aux auditeurs le projet P4P, Achat pour le Progrès, c'est quoi en fait?
L'objectif de ce projet, c'était de pouvoir appuyer le petit producteur à augmenter la production et certainement pour augmenter leurs revenus.
Alors, parlez-nous un peu de ce projet.
Ce projet a débuté en Équateur en 2012. En 2011, il y a eu des évaluations. Après toute une série de projets qui ont été exécutés dans la zone. Parce qu'avant ces projets, la FAO et le PAM ont eu à organiser beaucoup d'interventions d'urgence. Et après, en 2011, on a vu qu'il y avait la stabilité et qu'il ne fallait pas continuer avec des interventions d'urgence. Il fallait certainement un programme donc, de réhabilitation. Et ce projet a commencé au Katanga en 2009. Après le Katanga, donc nous, au niveau de l'Équateur, nous avons commencé ce projet en 2012. Dans deux territoires, Bikoro et Ingédé.
Pourquoi le choix de Bikoro et Ingédé?
Bikoro et Ingédé, à cette époque-là, il y avait le premier point, c'était les deux territoires qui approvisionnent la ville de Mbandaka. Donc la ville de Mbandaka est plus ravitaillée avec la production qui vient de ces deux territoires-là. Et aussi, à cette époque-là, il y avait un problème d'accessibilité. C'était les deux territoires où vraiment l'accès était facile. Parce que c'était très difficile en 2012 d'arriver à Bolomba, c'était très difficile d'arriver à La Tchoua parce que les routes étaient complètement coupées. Mais c'est à Ingédé, à Bikoro, où il y avait l'accessibilité facile.
Alors quels sont les principaux axes de ce projet?
Le projet a eu trois axes principaux. Le premier axe a porté sur la dynamique communautaire. Le deuxième axe, c'était l'appui à la production et à la transformation. Le troisième axe, c'était l'appui donc, à la commercialisation, à l'accès au marché. En ce qui concerne le premier axe, donc sur la dynamique communautaire, là, parce que tout au début du projet, comme je vous ai dit ici, les évaluations ont montré que au niveau donc, de ces deux territoires, il y avait des petits producteurs, mais qui n'étaient pas organisés. Chacun était là, dans sa petite parcelle, mais les gens n'étaient pas vraiment regroupés. C'est comme ça qu'on s'est dit, pour un projet de réhabilitation, on devait commencer par là. D'abord, encadrer ces petits producteurs qui n'étaient pas organisés à commencer maintenant à se mettre ensemble. C'est comme ça que le premier axe a porté sur l'économie communautaire, où il y a eu vraiment un appui consistant sur des formations qui ont permis aux gens donc, à voir des organisations paysannes bien structurées, bien gérées. Il y a eu beaucoup de formations sur la gestion communautaire, sur la gestion d'une organisation paysanne, et sur la gestion même financière. Et sur le rôle, donc le rôle certainement de chaque membre au niveau de l'organisation.
Et il y a eu combien d'organisations ?
Dans l'ensemble, pour les deux territoires, nous avons 274 organisations paysannes regroupées dans 17 unions.
Parlons maintenant du deuxième axe.
Le deuxième axe, c'était l'appui à la production et à la transformation. Comme je vous ai dit, donc dans la zone, il y avait des petits producteurs, mais le niveau, donc le revenu des paysans était très très faible. Pourquoi ? Parce que dans la zone, seul le maïs qui était la culture principale.
Donc il fallait de nouvelles cultures.
Dans les projets, on a introduit des nouvelles cultures qui étaient des cultures de rente. On a eu deux types de céréales, donc le maïs et le riz, et deux types de légumineuses, l'arachide et le niébé. Donc c'est ce qui a permis à ce que, maintenant, au niveau du projet, on a introduit le riz et le maïs. Et comme vous avez dit, les témoignages des gens ici, ici dans la zone, il n'y avait pas de riz. Le riz, ça venait de Bumba.
Donc vous avez introduit notre culture alimentaire dans cette zone. Donc,
effectivement, même dans le régime alimentaire des gens, parce que les gens étaient habitués à consommer les maniocs. Et actuellement, dans le régime alimentaire des gens, il y a le riz qui a été déjà introduit dans le système de régime alimentaire des gens. Ici, le niébé, parce que le niébé donc, qui remplace les haricots ici, donc qui est aussi introduit dans le régime alimentaire.
Et le troisième axe ?
Bon, le troisième axe, c'est l'appui à la commercialisation. Donc, parce qu'on s'est dit, on ne peut pas se limiter seulement donc, à la production. Donc après la production et la transformation, comme vous avez vu, donc on a installé les unités de transformation qui permettent maintenant les gens à transformer les produits sur place là. Maintenant, il fallait certainement, donc le dernier axe, donc l'appui à la commercialisation. C'est-à-dire les gens ont produit, mais maintenant il fallait les orienter pour qu'ils puissent vendre. Et c'est comme ça qu'il y a un appui avec la construction des infrastructures que vous voyez, donc les infrastructures de stockage. Et aussi des formations donc, par rapport à la négociation des prix. Parce qu'il y avait un problème dans la zone. Les petits commerçants qui venaient acheter, ils imposaient les prix. Vous dites que le sac de maïs ici, je l'achète à 11 000. Et le producteur n'a rien à dire. Mais maintenant, avec le projet, donc, les producteurs, ils ne vendent pas maintenant chacun dans sa maison. Maintenant, toute la production est collectée et stockée au niveau de l'entrepôt. C'est maintenant au niveau de l'entrepôt, il y a négociation entre les acheteurs et certainement les producteurs.
De 2012, nous sommes en 2016. Quel est le résultat de ce projet ? Est-ce qu'il y a un impact palpable ?
Bon, l'impact, je vous ai dit, donc, c'était d'abord la phase pilote. Ce sont les enquêtes parce que maintenant, on a lancé les enquêtes qui vont certainement avoir des indicateurs ici. Mais moi, je pourrais vous dire qu'il y a des impacts visibles par rapport à ce qui concerne le taux de la malnutrition. Parce que dans la zone avant les projets, le taux de malnutrition était très élevé. Et actuellement, dans les zones de santé des deux territoires, on a vu qu'il y a des informations qui prouvent que le taux de malnutrition a baissé. Sauf une zone de santé, Iboko, où on trouve que le taux de malnutrition encore est très élevé. Et quand on a trouvé, ça n'a rien à voir avec la production, mais c'est lié aux habitudes alimentaires des gens. Donc, qui n'a rien à voir avec la production. Ça, c'est un indicateur. Deuxièmement, je vous ai dit aussi, au niveau de la variation de la ration, donc les gens qui étaient condamnés à consommer seulement le manioc, il y a maintenant le riz qui s'est ajouté dans le régime alimentaire des gens.
Donation Ngoyi, merci.
C'est à moi de vous remercier.
En plus bref, nous commençons par la visite du directeur des opérations Haute-Char en RDC du 20 au 23 juin 2016. La mission de M. John Ging a eu pour objectif de faire le point sur les questions de protection de la population civile et des défis d'accès humanitaire auxquels les différents acteurs font face. Volet santé, épidémie de fièvre jaune, l'OMS soutient la RDC pour la fourniture des vaccins anti-amarylle. Près de 2 millions de personnes ont déjà été vaccinées dans 11 zones de santé à Kinshasa et au Congo central entre le 26 mai et le 4 juin 2016 avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Et le lundi 20 juin, le gouvernement congolais, à travers son ministre de la Santé publique, a confirmé l'existence de l'épidémie de fièvre jaune dans 3 provinces, à savoir Kinshasa, le Congo central et le Kwango. À cette date, plus de 1100 cas suspects cumulés de cette maladie, dont 115 décès ont été notifiés depuis le début de l'année. 5 nouveaux cas ont été confirmés entre les 16 et le 20 juin. D'où la sollicitation de l'appui de l'OMS et d'autres partenaires par le gouvernement pour obtenir rapidement des vaccins anti-amarylle et de continuer la riposte vaccinale dans les provinces affectées. Enfin, nous sommes le 26 juin, ce dimanche, une date consacrée à la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. À Kinshasa, avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO, l'ONG Gouvernance Plus a organisé vendredi dernier la première édition du repas de solidarité avec les victimes de torture, viol et autres abus sexuels. L'événement a eu lieu dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, la FIKIN.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Nous disons en titre, le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 384 violations des droits de l'homme au mois de mai en RDC, ce qui représente une hausse par rapport au mois d'avril 2016, au cours duquel 366 violations avaient été enregistrées. Du coup, ce rapport fustige le rôle des auteurs de ces violations. En revanche, il relève tout de même quelques avancées dans la lutte contre l'impunité. José María Ranaz, directeur du bureau conjoint, est notre invité. Il s'entretient avec Jean-Pierre et la Ligue Coco. Suivez.
José María Ranaz, bonjour.
Bonjour.
Et d'abord, une question d'actualité. La Cour pénale internationale vient de condamner le sénateur Jean-Pierre Bemba à 18 ans de prison. Les conseils des avocats de Jean-Pierre Bemba dénoncent non seulement la partialité du verdict, mais aussi le fait que le juge n'ait pas respecté le droit du sénateur. Quelle est donc votre lecture concernant justement ces verdicts?
Du point de vue des droits de l'homme, le verdict de la Cour pénale internationale, c'est important parce que consacre la violence sexuelle comme un crime de guerre et aussi reconnaître les douleurs et les droits des victimes, et aussi ça va envoyer un message très important au chef de guerre parce que c'est une décision établie de responsabilité et commandement. Alors du point de vue des droits de l'homme, c'est une décision importante. Oui, le chef militaire est ce qui organise la violence et les violations des droits de l'homme.
Et en ce qui concerne la sentence, 18 ans, c'est pas trop?
C'est pas une question à nous à donner notre opinion.
Le bureau conjoint a publié les rapports de mai 2016. Quelles sont les grandes tendances du rapport?
Oui, le mois de mai était marqué par une augmentation des violations des droits de l'homme qui étaient enregistrées par notre bureau. Et nous avons partagé les rapports avec les gouvernements. Dans le mois de mai, nous avons documenté au moins 384 violations des droits de l'homme dans les territoires de la RDC, qui représente une hausse par rapport des chiffres de violations des droits de l'homme dans les mois d'avril. Les agents de l'État étaient responsables de la majorité des violations des droits de l'homme. Ils ont été l'auteur de au moins 67% de cette violation et ils ont commis au moins 17 exécutions extrajudiciaires. Parmi les groupes armés, ils ont commis 30% des violations des droits de l'homme. Des FPI étaient l'auteur principal des violations des droits de l'homme. Nous avons documenté aussi une grande augmentation des violations des droits de l'homme en relation avec les libertés publiques.
Oui, justement, 155 violations des droits de l'homme liées à la restriction de l'espace démocratique, comme vous l'avez dit, 30 manifestations de partis politiques ou de la société civile réprimées ou interdites, c'est quand même inquiétant pour la suite du processus électoral en République démocratique du Congo, n'est-ce pas?
Oui, c'est très préoccupant et ça marque un moment de réflexion. Il faut changer les courses de l'espace politique, il faut changer la tendance si on veut avoir le dialogue et les élections crédibles et apaisées.
À part le dialogue, qu'est-ce qu'il faut encore?
Il faut ouvrir l'espace politique, arrêter les arrestations arbitraires, permettre la liberté de manifestation pacifique, arrêter la tendance à la répression de libertés fondamentales et commencer un dialogue entre tous les acteurs politiques pour avoir les élections crédibles et apaisées.
José Maria Ranaz, quelles sont les avancées que vous avez constatées dans ces rapports par rapport, bien sûr, au rapport des mois antérieurs?
Dans les mois de mai, il y avait une très bonne coopération avec les institutions de la justice militaire. Par exemple, nous avons eu des enquêtes conjointes à Eringeti sur les cas de l'ADF. Aussi, les audiences foraines à Motarulé avec la justice militaire. Avec la Commission nationale des droits de l'homme, nous avons un très bon rapport et des contributions au rapport au Conseil des droits de l'homme. Il faut souligner ces efforts ensemble de coopération avec les institutions de l'RDC.
Vous réjouissez aussi d'un point qui vous semble positif, c'est les efforts réalisés dans la lutte contre l'impunité.
Il faut souligner, par exemple, dans les cas de répression des manifestations des mois de mai, il y avait au moins un membre de la PNC qui était condamné pour l'usage excessif de la force. Nous avons aussi documenté qu'au moins il avait 6 membres de la FRDC et 4 membres de la PNC qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme les mois passés. Ça veut dire, dans toute cette année, il y avait plus que 104 cas des agents étatiques qui ont été condamnés pour violation des droits de l'homme. En matière de violence sexuelle, par exemple, on a documenté aussi et on a salué les efforts du gouvernement pour éradiquer la violence sexuelle par les agents étatiques. Je voudrais remarqué qu'au moins 35% des cas de l'année passée ont été jugés, condamnés. Et aussi, et dans cette année, on a constaté déjà une augmentation. Au moins 40 cas de violences sexuelles ont été condamnés dans les cours de cette année. Il faut saluer cet effort des autorités.
Ça, c'est positif. Vous revenez dans ce rapport sur les cas de décès dans des prisons de la République démocratique du Congo. Et là aussi, vous citez les cas dus aux maladies. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau peut-être de votre bureau pour qu'on puisse arriver à un traitement beaucoup plus humain au niveau de prisons de la République démocratique du Congo où on enregistre encore cette fois-ci dans ces rapports des cas de décès?
L'RDC a un grand problème d'infrastructure pénitentiaire et carcérale. Il y a un grave cas de surpopulation et une utilisation abusive de la détention préventive qui a une répercussion directe dans les conditions de détention, l'accès aux soins, la malnutrition et aussi, comme je dis, l'usage excessif de la détention préventive. Il faut continuer avec les efforts qui sont déjà commencés par le ministère de la Justice à libérer celles qui sont dans une mauvaise condition de santé ou bien celles qui sont déjà passées le temps de détention préventive pour alléger la population carcérale. Et il faut aussi rappeler aux bailleurs de fonds pour contribuer à l'amélioration de l'infrastructure.
Mais là aussi, il faut rappeler le gouvernement un peu à l'offre.
Oui, oui, il faut rappeler les efforts du gouvernement. Ils sont déjà commencés avec les efforts pour libérer ceux qui sont déjà passés les périodes de détention préventive.
Oui, monsieur José Maria Ranaz, vous êtes devenu un habitué de Radio Capi à la fin de chaque mois pour faire justement le point sur le rapport mensuel des violations des droits de l'homme en RDC. Vous êtes directeur du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. À moins que vous ayez un dernier mot.
Merci beaucoup à Radio Capi et merci beaucoup aux auditeurs de Radio Capi pour l'intérêt dans les questions des droits de l'homme à l'RDC.
Et Radio Capi vous remercie aussi. Merci.
L'Olifa, un village de la province de l'Équateur à une dizaine de kilomètres de Mbandaka, a été déclaré village assaini dans le cadre d'un programme appuyé par l'UNICEF. Le 5 juin dernier, le chef de ce village a reconnu les bienfaits de ce programme et exhorte le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et d'autres agences sœurs onusiennes et leurs partenaires de faire davantage pour le développement de sa communauté de près de 5000 habitants. Les propos du chef du village, l'Olifa, traduits par un responsable local du PAM, au micro d'Honoré Missenga. Kalala.
Nous sommes très contents de vous voir au milieu de nous. Nous avions appris que vous allez venir. Aujourd'hui, nous avions vu effectivement au milieu de nous. Nous vous remercions très sincèrement de votre arrivée dans notre village. Ce que nous pouvons vous dire, avant, nous avions l'habitude de consommer que l'eau de la rivière. On n'avait pas le souci de se protéger des ordures et de toutes les saletés. Parce que pour nous, on savait que c'est Dieu qui protège. Or, nous étions dans l'égarement. C'est à partir de l'UNICEF, Oxfam et les autres qui sont venus nous apprendre comment nous pouvons construire des latrines. Et vous ne nous avez pas aussi laissé comme ça. Vous avez mis des ouvrages de l'eau potable dans notre village. C'est pourquoi nous avions éprouvé votre intervention, du fait qu'auparavant, nous étions tout le temps à l'hôpital, dans notre centre de santé, avec des problèmes de diarrhée et autres maladies. Mais désormais, il n'y en a presque pas. Nous vous remercions très sincèrement et nous vous demandons de ne pas nous abandonner, d'être toujours avec nous, continuer à nous aider. Si nous avons un petit problème ici dans notre village, c'est un problème d'école. Parce qu'auparavant, nous n'avions pas une école ici. Mais à partir de l'UNICEF et Oxfam, nous avions reçu l'école primaire. C'est pourquoi à ce temps-là, il y avait beaucoup de délinquants ici parce que les enfants n'étudiaient pas, ils ne voyaient que l'eau. Et le village et la conséquence était de la délinquance. Maintenant, nous avons reçu notre école primaire, mais nous avons des difficultés pour accéder à l'école secondaire. C'est pourquoi nous avons encore des difficultés à ce niveau, parce que quand les enfants, après avoir reçu leur certificat, comme les écoles secondaires sont un peu éloignées, il n'y a pas moyen d'y aller, ils reviennent encore sur nous. Les filles aussi également, pour ne pas aller là-bas avec des conséquences multiples de viols et consorts, c'est le mariage précoce et tout ce que vous savez. Vraiment, nous vous remercions très sincèrement. Vous nous avez aidés, continuez toujours à nous aider.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Pourquoi les forces de la MONUSCO et les FARDC n'arrivent-elles pas au bout des groupes armés qui endeuillent les populations dans l'est de la RDC? C'est en tout cas la question de Séraphin Kiremai, il est de l'agence congolaise de presse. Alors vous suivrez la réponse également du commandant des forces de la MONUSCO, le général Derrick Mbuyiselo Ngwebi.
Au jour d'aujourd'hui, les FARDC, conjointement avec la force onusienne, ne parviennent pas à mater les groupes armés à l'est. Et le colonel Amouzoum a parlé de l'activisme et de le manque de collaboration parce qu'il a dit qu'il faut que la population collabore franchement. Ça signifie qu'il n'y a pas de collaboration entre la population et les forces conjointes. Est-ce que vous serez en mesure de ramener la confiance de la population congolaise vis-à-vis et des forces armées de la RDC et de la force onusienne?
Well, my take is the security situation of the Congo is very complex.
Mon entendement est que lorsqu'on parle de la situation sécuritaire, la RDC, ce qu'il faut se mettre en tête, que cette situation sécuritaire est très complexe. Lorsqu'on parle des groupes armés, il faut savoir de quel groupe il s'agit. Et il faut aussi se poser bon nombre de questions, entre autres, pourquoi ils se montrent réticents pour pouvoir se rendre et arrêter leurs activités. Il y en a d'entre eux, à mon avis, qui se considèrent comme étant des victimes. Et en les approchant, il faut créer des conditions, faire en sorte qu'ils puissent se montrer confiants pour pouvoir arrêter leurs activités. Mais cela ne peut être réalisé sans une meilleure collaboration avec les FARDC et également avec la population. Donc je m'attelle à tout cela pour leur montrer que s'ils montrent de la bonne volonté, il y a moyen de pouvoir les protéger.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Moi, c'est Giselaine Ntobo, mère d'un enfant. Je suis licenciée en français linguistique. J'ai obtenu mon diplôme de licence à l'Institut supérieur pédagogique ISP Mbandaka. Actuellement, je travaille avec les réfugiés au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Avant le HCR, j'étais à Radio Capi où je travaillais depuis plus de 12 ans. Actuellement, ça fait plus d'une année que je suis avec les HCR. Donc, je peux dire que je travaille de 8h à 17h normalement, mais je peux aller aussi au-delà des 17h compte tenu des tâches ou des responsabilités que j'ai devant moi. En fait, chaque semaine, je suis censé faire la mise à jour de la situation des réfugiés centrafricains dans les provinces du Nord et Sud-Ubangi. Donc, j'ai fait la mise à jour, j'ai fait la compilation de tous les rapports des différents bureaux terrain que nous avons, parce que nous avons 4 camps gérés par la sous-délégation de l'UNHCR Badolité, le camp des Moulets, non loin des Zongo, le camp des Boyabou à Libengue, le camp des Bili au territoire de Bossobolo, ainsi que le camp d'Inke à 43 km de Badolité. Et donc je suis censé faire la compilation de tous les rapports en provenance de ces bureaux-là, afin d'envoyer le rapport final à Kinshasa, à la représentation régionale. Je prépare également les fiches qui contiennent toutes les informations sur nos activités dans le nord et sud de Bangui. Donc, ces fiches-là sont présentées aux visiteurs qui viennent d'ailleurs et même aux bailleurs de fonds qui nous rendent visite. On leur donne ces fiches de formation pour s'enquérir un peu de nos activités sur le terrain. Bon, je travaille de lundi à vendredi. Le week-end, je suis souvent à la maison, mais n'empêche que j'aille rendre visite à certains de mes collègues et parfois je vais à l'église. Nous qui travaillons comme ça, on n'a pas le temps de préparer. Souvent, il y en a qui pensent que les femmes qui travaillent n'ont pas le temps pour faire la cuisine, mais quand même, on en profite le week-end pour préparer, pour aller au marché, pour faire la vaisselle, pour remplir certaines tâches ménagères. En fait, la musique mondaine m'intéresse peu. J'aime plus la musique chrétienne. Concernant les
sport, j'aime bien jouer au basketball. Malheureusement, on n'a pas de terrain sur place à Guadeloupe, mais quand même, on tente de former une petite équipe avec tous les humanitaires pour nous distraire un tout petit peu. On essaie quand même de créer des activités comme ça pour se détendre un tout petit peu. Le sport, en tout cas, j'aime jouer au basketball. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Bon, je mange un peu tout ce que les hommes mangent. Mais mon plat préféré, c'est plus les haricots, les plantains, les poissons salés. Voilà, c'est ce que j'aime. Je ne suis vraiment pas exigeante de ce côté-là. Donc, je mange tout, sauf les chenilles. Mon souhait est d'occuper un poste important dans un organisme international ou dans une ONG internationale. Et ce qui m'a plus attiré, c'est que j'ai vu des femmes diriger des hommes tels que Patricia Tomé, que j'ai connue à la MONUSCO, mais aussi Eliana Labar. Donc ce sont des femmes qui occupaient quand même des postes importants et elles étaient très appréciées. Moi aussi, je souhaite un jour occuper un poste important et diriger aussi des hommes tels que d'autres femmes aussi le font. Je voulais profiter de cette occasion pour faire un petit coucou à tous les auditeurs qui m'ont toujours reconnu, qui peuvent encore reconnaître ma voix sur les ondes de Radio Capi, les auditeurs de Mbandaka particulièrement, mais aussi ceux du nord Ubangi, la province où je me trouve actuellement, les auditeurs du sud Ubangi, et pourquoi pas de toute la République démocratique du Congo qui ont reconnu ma voix sur les ondes de Radio Capi. Je suis très heureuse de revenir encore sur cette chaîne écoutée par de nombreux auditeurs à travers le pays et même à l'étranger. Et j'ai dit coucou à tout le monde, je vous aime tous. Bye.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Le premier samedi du mois de juillet est consacré à la Journée internationale des coopératives. Ce premier samedi tombe le 2. C'est donc un rendez-vous à retenir dans votre agenda de la semaine. Et c'est déjà la fin du magazine des Nations Unies qui a été coordonné ce dimanche par Jean-Pierre Lali Coco qui est également au reportage. Martha Sebujango est la supervisée, Honoré Missing Nakayala était au reportage. Je suis Tina Salama, je vous l'ai présenté avec beaucoup de plaisir. À la mise en onde, Mimi Kindou. On se dit comme d'habitude, à dimanche prochain. Vous voulez le réécouter, vous n'avez qu'à taper www.radiocapi.net et vous allez le retrouver donc sur le site internet de la radio Okapi. Bon dimanche chez vous et à très bientôt. Ciao.